Donc maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Drapeau-Comptine, qui est maître de conférence en métaphysique et philosophie du langage à l'Université de Rennes, dont les travaux portent sur la métaphysique, les modalités, l'identité, les théories de la référence, la métaphysique en général, et la sémantique des termes d'espèce. Il a publié notamment Kripke, Référence et modalités en 2005, Qu'est-ce que l'identité ? Et il prépare actuellement un ouvrage sur le nécessaire et l'a priori après Kripke. Et le titre de son intervention est, je vais le dire très lentement pour lui laisser le temps d'arriver, « La nécessité sans les sens, le problème de la distinction numérique ». Je te laisse la parole, Philippe.
Merci. Il faut courir ici. Hein.
Je peux faire des blagues, si tu veux, des rondades, mais je suis pas sûr que ce soit.
En tout cas, merci, merci Benoît et merci beaucoup à Claudine et à Alexandre de m'avoir invité. Je suis ravi d'être ici en chair et en os, en présentiel, et puis de retrouver l'ambiance stimulante du groupe d'études métaphysiques. Ça faisait un an et demi et c'est un vrai plaisir d'être là. Mmh. Alors, je dirais que sans surprise, aujourd'hui, je vais vous... parler des sens. Donc, je vais discuter de points qui ont été déjà abordés plusieurs fois, par plusieurs conférenciers depuis hier. Donc, je vais discuter du rapport entre la notion d'essence et la notion de nécessité, et plus exactement la question qui est de savoir si l'essence peut fonder la nécessité. Alors, c'est une question qui est revenue sur le devant de la scène depuis une vingtaine d'années, avec l'émergence d'un courant de métaphysiciens qu'on peut appeler les néo-essentialistes. Donc des auteurs dont on a déjà parlé, Kit Fine, Gideon Rosen, Jonathan Lowe, ou encore Bob Hale. Alors tous ces auteurs ont pour point commun de défendre une conception prémodale de l'essence. Donc j'entends par là une conception de l'essence en laquelle, premièrement, on ne peut pas réduire l'essence à la modalité des rés, c'est-à-dire on ne peut pas réduire l'essence d'un objet à l'ensemble de ses propriétés nécessaires. Et deuxièmement, selon cette conception, l'essence prime sur la nécessité. Donc c'est l'essence qui doit analyser ou fonder la nécessité, et non l'inverse. Alors, dans mon exposé, j'accorderai le premier point, donc l'irréductibilité de l'essence à la notion de nécessité. Et je vais me concentrer sur le second point, qui est de savoir si l'essence peut fonder le nécessaire au sens métaphysique de la modalité. Et comme on va le voir, fonder la nécessité sur l'essence revient à accepter un certain principe que moi j'appellerais le principe de fondation essentielle et qui dit toute vérité nécessaire, c'est-à-dire tout énoncé qui est vrai nécessairement, est une vérité essentielle, c'est-à-dire un énoncé qui est vrai en vertu de l'essence de quelque chose. Or, je pense que le principe de fondation essentielle bute sur un contre-exemple qui a été, à mon avis, négligé ou sous-estimé par les néo-essentialistes, à savoir les énoncés de distinction numérique, tous les énoncés de la forme A est distinct de B au sens de A n'est pas numériquement identique à B. Je tâcherai de montrer que dans bon nombre de cas de distinction, on a affaire à des distinctions qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas essentielles, c'est-à-dire des énoncés de distinction qui ne sont pas vrais en vertu de l'essence de quelque chose. Et si c'est le cas, eh bien, il faut abandonner le principe de fondation et admettre des nécessités brutes, du moins au sens où il y aurait des vérités nécessaires, mais dont la nécessité ne s'explique pas par l'essence de quelque chose. Alors, pour commencer, je rappelle brièvement les motivations des néo-essentialistes. Ils s'opposent à la conception modale de l'essence, donc qui a prévalu jusque dans les années 1990. Selon cette conception, l'essence est définie en termes de nécessité d'errer. Une propriété est essentielle à un objet si et seulement si cet objet possède cette propriété dans tous les mondes possibles où il existe. Et malheureusement, du moins pour ceux qui défendent cette conception, comme l'a montré Kit Fine, la conception modale de l'essence conduit à des attributions erronées d'essence. Donc, prenons par exemple deux objets numériquement distincts entre eux quelconques, disons Socrate et Darius. La logique modale nous dit que la distinction est nécessaire, c'est-à-dire si A est distinct de B, alors A est nécessairement distinct de B. Puisque Socrate est actuellement distinct de Darius, alors ils sont nécessairement distincts entre eux. Socrate et Darius n'auraient pas pu être le même homme dans un autre monde possible. Il s'ensuit que dans tous les mondes possibles où Socrate existe, Socrate possède la propriété d'être distinct d'Arius. En vertu de la définition modale de l'essence, on devrait donc dire que cela fait partie de l'essence de Socrate que d'être distinct d'Arius. Et on devrait bien sûr étendre cette conclusion à la foule d'objets actuels dont Socrate est actuellement distinct. Donc il ferait partie de l'essence de Socrate d'être distinct de Darius, mais aussi distinct de Madonna, de la tour Eiffel, du nombre 3. Que sais-je encore ? Donc évidemment, c'est absurde. Ça fait sans doute partie de l'essence de Socrate d'être un homme, une personne ou un organisme, au choix. Mais en tout cas, la nature de Socrate n'enveloppe pas de référence à des objets qui, intuitivement, n'ont aucun rapport avec ce qui fait que Socrate est ce qu'il est. Donc face à ce genre de contre-exemple, les néo-essentialistes en concluent que la notion d'essence est une notion dont le grain est trop fin pour être analysé en termes de nécessité ou de possibilité. Et ils suggèrent de revenir à une notion non modale d'essence dans une veine qui se veut aristotélicienne. Il faut, selon eux, concevoir l'essence non plus en termes modaux, c'est-à-dire comme étant les propriétés nécessaires d'un objet, mais il faut concevoir l'essence en termes d'identité et d'explication et réactiver cette vieille conception qui en fait la définition réelle d'une chose, l'essence comme ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est. J'aurais dû le dire avec emphase, comme on a dit hier. Mais les néo-essentialistes ne s'arrêtent pas là. Ils ne veulent pas simplement élaborer une théorie non modale de l'essence, ils entendent aussi inverser l'ordre de priorité entre l'essence et la nécessité, et s'appuyer sur la théorie de l'essence pour analyser ou fonder la nécessité sur l'essence. Alors je dis analyser ou fonder, car il faudrait en fait distinguer entre deux programmes néo-essentialistes. Le plus fort est un programme réductionniste qui entend analyser sans reste la notion de nécessité en termes d'essence. Donc c'est une idée qu'on trouve peut-être suggérée dans certains passages de Kit Fine. Et il faut distinguer ce programme d'un autre qui est plus modeste et qui concède que les notions modales de nécessité et de possibilité sont irréductibles à celles d'essence, mais qui défend néanmoins une priorité métaphysique de l'essence sur la nécessité, en arguant que les faits d'essence déterminent tous les faits de nécessité. Et ce programme fondationnel, c'est par exemple celui que défend Bob Hale. Alors, dans la suite de l'exposé, je me concentrerai exclusivement sur le programme fondationnel, parce que les contre-exemples qui valent contre ce programme valent a fortiori contre le programme réductionniste qui est plus demandeur. Alors, pour ceux qui veulent fonder la nécessité sur l'essence, l'objectif est de montrer qu'on peut dériver toutes les vérités modales formulées en termes de nécessité et de possibilité à partir d'énoncés qui sont formulés au moyen de la notion d'essence. Donc, ce qui suppose de disposer d'une logique de l'essence déjà constituée avec son langage, ses règles d'inférence et ses axiomes. Alors, pour ce faire, comme les néo-essentialistes, j'introduis un opérateur d'essence. Donc, ma préférence va pour un opérateur de la forme « il est vrai en vertu de l'essence de T que P », où T est un terme singulier, donc c'est une constante singulière ou une variable, qui désigne une certaine chose, et où P est un énoncé qui décrit une propriété qui fait partie de l'essence de la chose en question. Et donc, comme vous pouvez le voir en bas de la page 1 du handout, je représente l'opérateur d'essence au moyen d'un carré noir, indicé par un terme, pour ne pas le confondre avec le carré blanc qu'on utilise traditionnellement pour symboliser l'opérateur de nécessité. Et donc, lorsqu'un énoncé peut être enchâssé véridiquement par l'opérateur d'essence, je dirais désormais que cet énoncé est une vérité essentielle, c'est-à-dire un énoncé qui est vrai en vertu de l'essence de quelque chose. Alors évidemment, ces termes singuliers qu'on place en indice de l'opérateur soulèvent cette question. Quel est le genre de chose dont on fait intervenir ici l'essence ? Quel genre d'objet peut-on désigner au moyen des indices de l'opérateur ? Donc, comme Bob Hale et d'autres, je n'exige rien de particulier pour être une entité dotée d'une essence, mis à part le fait d'avoir des conditions d'identité. Donc les termes indiquant l'opérateur d'essence peuvent donc désigner aussi bien des objets concrets spatio-temporels, comme Socrate, que des objets abstraits, comme les nombres, les ensembles, les fonctions, les propriétés, les propositions. Alors, maintenant que j'ai introduit l'opérateur d'essence, je devrais vous présenter les axiomes et règles d'inférence qui gouvernent cet opérateur et qui constituent le socle de la logique de l'essence. Mais, faute de temps, je remets ce point à plus tard, car je voudrais en venir à mon problème qui se trouve ailleurs. En effet, la difficulté que je voudrais soulever aujourd'hui concerne ce que j'appellerais les principes ponts, c'est-à-dire les formules qui permettent de convertir chaque énoncé essentialiste en un énoncé de nécessité et vice-versa. Donc sans ces règles de correspondance entre énoncé essentialiste et énoncé nécessité, on ne peut pas dériver les vérités modales à partir des vérités essentialistes. Alors nous avons besoin de deux principes ponts. Le premier principe pont est ce que j'appellerais le principe de la nécessité de l'essence, que vous trouvez donc au milieu de la page 2 du handout. Ce principe dit que si un énoncé P est vrai en vertu de l'essence d'une chose, alors il est nécessaire que P. Autrement dit, toute vérité essentielle est une vérité nécessaire. Et donc, comme vous le voyez dans le handout, la formule connecte deux opérateurs. Donc à droite, on retrouve l'opérateur d'essence symbolisé par le carré noir, et puis à gauche, l'opérateur de nécessité symbolisé par le carré blanc. Alors, de façon équivalente, sous sa forme contraposée, le principe de nécessité de l'essence revient à dire que ce qui est métaphysiquement possible doit être compatible avec toutes les essences, avec les essences de toutes les choses. Alors, le principe de nécessité de l'essence est central pour le projet de fondation, car ce principe dit que l'essence génère de la nécessité, ou qu'elle est une source de nécessité. Mais attention, si ce principe est requis pour fonder la nécessité sur l'essence, il n'est pas suffisant, parce que ce principe n'exclut pas que certaines nécessités prennent leur source ailleurs que dans l'essence, ou qu'il y ait des nécessités brutes ou fondamentales, c'est-à-dire des nécessités qui ne soient pas déterminées ou expliquées par des faits plus fondamentaux qu'elles. Donc pour exclure ces nécessités brutes, il faut donc joindre un second principe, pont, qui est la converse du premier, et que j'appellerai le principe de fondation essentielle, que vous trouvez toujours un peu en bas de la page 2 du handout. Donc le principe de fondation essentielle dit que s'il est nécessaire que P, alors il existe une chose en vertu de l'essence de laquelle P est le cas. Autrement dit, toute vérité nécessaire est une vérité essentielle. Ou si on reformule ce principe sous sa forme contraposée, le principe revient à dire que ce qui est compatible avec toutes les essences est possible. Rien de ce qui est permis par l'essence n'est impossible. Donc il ne doit pas avoir de trou dans les possibilités. Si c'est permis par l'essence, il y a forcément une possibilité qui correspond dans l'ensemble des mondes possibles. Alors, combiné au principe de nécessité, le principe de fondation essentielle revient à dire que l'essence n'est pas simplement une source de nécessité parmi d'autres, mais plus encore qu'elle est la seule source. Donc ce principe exclut qu'il y ait des nécessités brutes, c'est-à-dire des nécessités, des énoncés qui seraient vrais nécessairement, mais qui ne seraient pas vrais en vertu de l'essence de quelque chose. Donc on en arrive maintenant au point qui m'intéresse. Est-ce que ces principes ponts sont défendables? Alors dans la littérature, c'est souvent le premier principe, le principe de nécessité de l'essence qui concentre les critiques. Une objection souvent avancée que la justification du principe est circulaire. En effet, le principe de nécessité est censé expliquer la nécessité en nous disant d'où elle vient, à savoir de l'essence. Or tout le problème, c'est que l'acceptation du principe semble présupposer ce qu'il faut expliquer. Il faut déjà présupposer que l'essence est nécessaire et non pas contingente pour accepter le principe. Donc supposons en effet que l'essence d'un objet puisse être contingente, autrement dit qu'un objet puisse changer d'essence d'un monde possible à l'autre. Par exemple, dans le monde actuel, mon essence est d'être une personne. Dans d'autres mondes possibles, mon essence est d'être une bactérie ou une statue. Dans ce cas, il m'est essentiel d'être une personne puisque telle est mon essence dans le monde actuel. Mais pourtant, la propriété d'être une personne est contingente pour moi puisque il y a un monde possible où je possède une autre essence, une essence de bactérie, de statue ou d'œuf poché, comme disait Nathan. Et cette essence contrefactuelle ne requiert pas d'avoir les attributs d'une personne. Donc, à moins de présupposer que l'essence est nécessaire, il semble qu'il n'y ait rien qui garantisse qu'une propriété essentielle soit forcément une propriété nécessaire. Alors, pour ma part, je pense que le programme de fondation n'est pas du tout menacé par l'objection de circularité. Je pense qu'on peut assez facilement lui répondre sans tomber dans l'accusation de circularité. Mais là encore, faute de temps, je remets ce point éventuellement à la discussion, car je voudrais en venir à ce qui me semble être pour moi une difficulté plus sérieuse pour le projet fondationnel, et qui, à mon sens, a été négligée jusqu'ici, à savoir les contre-exemples au second principe pont, le principe de fondation essentielle. En effet, il semble que le principe de fondation essentielle soit mise en défaut lorsqu'on l'applique à certains cas de distinction numérique entre objets, et plus précisément d'objets concrets spatio-temporels. Autrement dit, il semble qu'il y ait des distinctions qui soient des nécessités brutes, des distinctions nécessaires, mais qui ne sont pas essentielles. Alors, afin de mieux cerner ces contre-exemples, on doit, je pense, avoir à l'esprit une asymétrie qui, à mon avis, existe entre l'identité et la distinction. Donc, prenons un fait d'identité quelconque, par exemple le fait que Romain Gary c'est Émile Ajar. Depuis Kripke et d'autres, on sait que l'identité est nécessaire. C'est même un théorème de logique modale minimale et qu'on peut articuler en disant ben, si A est identique à B, alors nécessairement A est identique à B. Donc, puisque Gary est de fait identique à Ajar, il s'ensuit que Gary est nécessairement identique à Ajar. Gary et Ajar n'auraient pas pu être deux personnes distinctes ou deux romanciers distincts dans un monde possible. Or, si le principe de fondation essentielle est juste, alors puisque l'identité de Gary et d'Ajar est un fait nécessaire, alors leur identité doit être aussi être un fait essentiel. Il doit exister une certaine chose X à identifier, dont l'essence fait que Gary, c'est Ajar. Alors, plus généralement, si le principe de fondation est juste, la logique de l'essence doit inclure la thèse en laquelle toute identité est essentielle. La thèse qui dit que si A est identique à B, alors il existe forcément une chose X dont l'essence fait que A est identique à B. Et arrive alors la question qui est de savoir, mais quelle est cette mystérieuse chose X dont l'essence a le pouvoir de faire que Gary, c'est Ajar. Alors dans le cas de l'identité, la question trouve assez facilement sa réponse. Et d'ailleurs, au passage, elle avait été, je crois que c'est Jean-Baptiste qui l'a mentionné de façon cursive dans son exposé. En effet, un raisonnement simple nous montre que ce qui fait que Gary c'est Ajar, ce n'est pas l'essence en question, ce n'est pas l'essence particulière de cet homme-là, Gary alias Ajar, mais c'est tout simplement l'essence de la relation d'identité en général. En effet, on peut arguer que la réflexivité fait partie de l'essence de la relation d'identité, puisque la réflexivité de l'identité fait l'objet de l'un des axiomes qui constitue la définition implicite de l'identité. Il est donc vrai, en vertu de l'essence de l'identité en général, que Gary, c'est Gary. Or, le fait que Gary, c'est Gary, n'a rien d'autre que le fait que Gary, c'est Ajar, autrement décrit, puisque les noms Gary et Ajar sont des désignateurs rigides de jure, qui contribuent simplement par leur référent à la description des faits. Par conséquent, si l'essence de l'identité en général fait que Gary c'est Gary, alors c'est elle aussi qui fait que Gary c'est Ajar, puisque c'est le même fait. Et ce genre d'explication vaut bien entendu pour toutes les autres identités. Donc on comprend donc bien en quoi la nécessité des identités est fondée sur l'essence, conformément au principe de fondation. Mais qu'en est-il à présent des faits de distinction numérique, c'est-à-dire des faits de non-identité? Alors, la question se pose car il est généralement admis que la logique de la nécessité métaphysique inclut parmi ses théorèmes la thèse de la nécessité de la distinction, que vous trouvez au milieu de la page 3 du handout. Et qui dit, si A est distinct de B, alors nécessairement A est distinct de B. Donc d'après le principe de fondation essentielle, on devrait donc s'attendre à ce que la logique de l'essence inclue la thèse analogue de l'essentialité de la distinction, qui dit que si A est distinct de B, alors il doit avoir une chose X dont l'essence fait que A est distinct de B. Or, mon problème, peut-être que ce n'est que mon problème, mais c'est que contrairement à l'identité, je ne vois pas de candidat qui pourrait jouer le rôle de ce mystérieux X dont l'essence pourrait garantir la distinction entre objets et donc fonder la nécessité de leur distinction. Je vais essayer de passer en revue les candidats prima facie qui se présentent. Alors, pour ce faire, donc, revenons à l'exemple de Socrate et Darius. Nous savons qu'il est nécessaire que Socrate soit distinct de Darius. Donc, quel type d'essence pourrait fonder leur distinction? Donc nous avons vu avec Kittfein que ça ne peut pas être l'essence de Socrate, car l'essence de Socrate n'enveloppe pas, vous connaissez. Donc pour la même raison, ce n'est pas l'essence de Darius. Alors comme on n'arrive pas à fonder leur distinction sur l'essence des individus concernés, alors on peut peut-être adopter la même stratégie que celle vue tout à l'heure pour l'identité, c'est-à-dire chercher à prouver que Socrate est essentiellement distinct de Darius en partant de l'essence de la relation d'identité en général. Or, tout le problème, et c'est là, à mon avis, qu'apparaît la symétrie que je suspecte entre identité et distinction, celle que j'évoquais tout à l'heure, il semble qu'il n'y ait pas de chemin de preuve qui partirait des propriétés essentielles de l'identité en général et qui aboutirait à la conclusion que Socrate est essentiellement distinct de Darius. Alors, plus exactement, comme on le verra à la fin de l'exposé, si on combine l'essence de l'identité en général avec un certain postulat essentialiste, alors oui, on peut en déduire que deux objets quelconques sont essentiellement distincts entre eux, mais malheureusement, comme on le verra, le postulat essentialiste qu'il faut rajouter pour obtenir cette conclusion est aussi douteux que l'essentialité de la distinction qu'il est censé prouver. Et donc cette voie, à mon avis, ne nous fournira ni une explication, ni une raison d'accepter l'essentialité de la distinction. Alors, le néo-essentialiste pourrait me rétorquer qu'il est trop tôt pour baisser les bras, car je n'ai pas exploité toutes les ressources de la logique de l'essence. Donc ce que j'ai montré pour l'instant, c'est seulement qu'on n'arrive pas à trouver une essence qui permettrait à elle seule de fonder la distinction. Alors pour la conclusion, ce serait pas mal, mais... ce que j'ai montré pour l'instant, c'est seulement qu'on n'arrive pas à trouver une essence qui permettrait à elle toute seule de fonder la distinction. Mais peut-être qu'en combinant plusieurs essences conjointement entre elles, on pourrait en tirer la distinction de Darius et de Socrate. Or, il se trouve justement que les néo-essentialistes font une place à ce qu'ils appellent des essences conjointes, ou des fois ils appellent ça les essences collectives. Car ils font remarquer que certains énoncés nécessaires sont vrais non pas en vertu d'une essence isolée, mais en vertu de plusieurs essences prises conjointement. Prenons par exemple le troisième axiome de la logique propositionnelle de Lukasiewicz, l'axiome de contraposition, donc, que vous trouvez page 4 du handout, hein, c'est qu'un exemple. Donc l'axiome qui dit « sinon P, alors non Q, alors si Q, alors P ». Donc, cet axiome, qui est une vérité logique, donc une vérité nécessaire, n'est pas vrai en vertu de l'essence de la fonction logique du conditionnel, ni en vertu de prise isolément, ni en vertu de l'essence de la fonction de la négation prise isolément, mais en vertu des essences du conditionnel et de la négation prises conjointement. Alors, quand je dis conditionnel et négation, je ne parle pas des symboles, je parle vraiment de la fonction logique. Et donc, c'est en vertu de ces deux essences conjointes que l'énoncé est vrai, et ce que les néo-essentialistes exprimeraient en indexant l'opérateur d'essence au moyen d'une paire d'indices, donc ici j'ai mis la paire négation conditionnelle, ou ailleurs au moyen d'un triplet d'indices ou un quadruplet d'indices, bref, en mentionnant en indice tous les objets dont les essences sont conjointement requises pour rendre vrai l'énoncé. Donc de la même façon, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de fonder la distinction entre objets sur des essences conjointes ? Et il semble en effet que cette stratégie puisse, dans certains cas, aboutir. Donc, prenons par exemple l'énoncé de distinction 2 est distinct de 4. Alors, de prime abord, l'énoncé 2 est distinct de 4 semble poser les mêmes difficultés que la distinction de Socrate et de Darius. L'énoncé est nécessairement vrai, puisque c'est une vérité mathématique. Mais à première vue, on ne voit pas de quelle essence pourrait venir sa nécessité. L'énoncé 2 est distinct de 4 n'est pas vrai en vertu de l'essence de 2, car la définition de 2, c'est d'être le successeur immédiat de 1 dans la suite des antinaturelles. Et rien dans cette définition ne mentionne 4, ni a fortiori la distinction d'avec 4. Et même chose du côté de l'essence de 4. Et on ne voit pas non plus comment on pourrait tirer la distinction de 2 et de 4 en partant de l'essence de l'identité en général. Néanmoins, en combinant des essences entre elles, on peut dériver l'essentialité de la distinction de 2 et de 4 et donc fonder sa nécessité. Alors pour le montrer, je vous ai proposé un petit exemple de preuve essentialiste en bas de la page 4 du handout. Alors qu'on se comprenne bien, hein, le but ici, c'est pas de vous refaire le coup de la preuve de distinct 4 façon Whitehead-Russell. Le but est de conclure qu'il est essentiel que 2 est distinct 4. Autrement dit, la preuve n'est réussie que si à la fin, on est arrivé à apposer le carré noir de l'opérateur d'essence sur l'énoncé de distinction. Ce qui est un peu plus difficile parce que ça suppose que toutes les prémices, tous les énoncés qu'on va utiliser en prémisse soient également des vérités essentialistes préfixées par le carré noir. Alors, dans la preuve, je pars de 5 prémices essentialistes. L'essence générale de 2, le fait que 2 est essentiellement un antinaturel. Ensuite, ce qu'on peut appeler les définitions réelles de 3 et de 4. Et enfin, la prémisse 2, qui est cruciale pour la preuve, parce que c'est elle qui dit qu'il est essentiel qu'un antinaturel soit distinct du successeur de son successeur dans la suite de N. Alors, quelle est l'essence qui fait que la prémisse 2 est une vérité essentielle ? Eh bien, comme je l'indique en indice, c'est l'essence de la propriété d'être un antinaturel, car l'énoncé 2 est une conséquence assez immédiate des 5 axiomes de Peano qui définissent implicitement ce que c'est qu'être un antinaturel. Et donc, en combinant les essences des entiers 2, 3, 4 et l'essence de la propriété d'être un antinaturel, on peut affirmer qu'il est essentiel que 2 distingue 4, alors qu'aucune de ces essences prises isolément ne peut rendre vrai l'énoncé de distinction. Maintenant, est-ce qu'on peut espérer étendre la stratégie des essences conjointes ou collectives à tous les cas de distinction entre objets ? Malheureusement, non. Il y a de bonnes raisons de penser que cette stratégie vaille uniquement pour les distinctions entre objets abstraits, comme les nombres, les ensembles, les fonctions, les propriétés. Pourquoi seulement les objets abstraits ? Eh bien, parce qu'à différence des objets concrets, spatio-temporels, les objets abstraits ont non seulement une essence générale, autrement dit, une essence qu'ils partagent avec les autres objets de la même sorte ou de la même catégorie qu'eux, mais plus encore, les objets abstraits ont une essence singulière, ou si on préfère, une définition réelle stricto sensu. Une définition réelle, c'est-à-dire une essence qui n'est pas seulement ce qui fait que tel objet est ce qu'il est, mais une essence qui est aussi ce qui singularise cet objet dans sa classe, c'est-à-dire qui fait que cet objet est différent des autres objets de sa catégorie. Alors c'est le cas de mon exemple du nombre 4, qui est défini par une propriété essentielle, celle d'être le successeur immédiat de 3, que 4 est le seul à posséder parmi tous les nombres. Or, à partir du moment où un objet possède une essence singulière, il satisfait ce que j'appellerais le principe des indiscernables essentiels. Et satisfaire ce principe entraîne ipso facto une distinction numérique essentielle de cet objet avec tous les autres. Alors, par le principe des indiscernables essentiels, principe que vous trouvez en haut de la page 5 du handout, j'entends le principe qui dit que si des objets sont distincts entre eux, alors ils doivent différer par ce que j'appellerais une différence essentielle. Au sens où il doit y avoir au moins une propriété qui est essentielle à l'un et qui est exclue par l'essence de l'autre. Autrement dit, il est essentiel que l'autre ne l'ait pas. Donc le principe des indiscernables essentiels doit être distingué du trop fameux connu principe des indiscernables, qui est une thèse plus faible et qui dit que si des objets sont numériquement distincts entre eux, alors ils doivent différer par au moins une propriété. Mais cette propriété peut très bien être une propriété accidentelle et contingente pour les objets. Par exemple, le fait que moi, j'occupe maintenant telle région de l'espace tandis que vous, vous occupez telle autre, alors que nos localisations spatio-temporelles sont accidentelles et contingentes. Nous aurions pu être ailleurs au même moment. Si on l'accepte, le principe indiscernable peut expliquer sans doute la distinction entre objets, mais il ne peut pas expliquer, c'est le point crucial, en quoi cette distinction serait essentielle. Parce que ce principe ne requiert pas que la différence de propriété qui fonde la distinction numérique soit elle-même essentielle. Or, c'est justement ce que stipule le principe des indiscernables essentiels. Il stipule que toute distinction doit reposer sur une différence essentielle. Or, si deux objets diffèrent essentiellement, alors comme une différence de propriété entraîne forcément une distinction entre objets, ça c'est le principe converse, le principe de l'indiscernabilité des identiques, il s'ensuit que leur distinction numérique sera elle aussi essentielle. Leur distinction hérite pour ainsi dire du caractère essentiel de la différence de propriété qui fonde cette distinction. Donc le principe d'indiscernable essentiel implique donc la thèse de l'essentialité de la distinction. Malheureusement, nous n'avons aucune raison de croire que le principe des indiscernables essentiels soit vrai des objets concrets. Contrairement aux objets abstraits, les objets concrets ont certes une essence, mais sans doute pas d'essence singulière, du moins si on laisse de côté des métaphysiques de l'individuation un peu exotiques, comme la théorie lemnisienne de la notion complète ou les théories de l'excéité. En un mot, les individus n'ont pas de définition réelle, et on ne peut pas utiliser ce principe, donc le principe d'indiscernable essentiel, comme un argument en faveur de l'essentialité de la distinction entre individus.
Alors, les quelques fois où j'ai exposé, notamment ici, au sein du GEM, du groupe d'études de métaphysique, donc le problème que pose la fondation de la nécessité de la distinction entre objets concrets, on m'a souvent répondu qu'il y a au moins un type de cas dans lesquels l'essence peut fonder la distinction entre objets concrets. C'est lorsqu'on compare des objets concrets qui ne sont pas de la même sorte ou de la même catégorie ontologique. En effet, si deux objets ne sont pas de la même catégorie, par exemple, l'un est une personne et l'autre est un artefact, alors la différence de catégorie fait une différence d'essence, et cette différence d'essence implique que les objets, ces objets-là, soient distincts entre eux. Et comme cette distinction découle d'une différence d'essence et non pas d'une différence de propriété accidentelle, alors cela semble garantir que la distinction qui en découle sera elle aussi essentielle et non pas accidentelle, ce qui est la thèse qu'on cherche à établir. Alors prenons par exemple une statue, donc disons, je ne vais pas être très original pour les noms, j'aurais pu me fouler, disons une statue qui est prendre Goliath, appelons-la Goliath, et prenons le morceau d'argile qui la constitue, appelons-le Lumpel. Donc selon la conception un peu orthodoxe de la relation de constitution matérielle, la relation de constitution matérielle ici entre Lumpel et Goliath est une relation de distinction numérique. Lumpel, donc le morceau d'argile, n'est pas Goliath, la statue qu'il constitue. On a ici deux entités qui coïncident au même endroit, au même moment. En effet, en tant que statue, Goliath a essentiellement une forme humaine, elle ne pourrait pas exister à l'état informe, tandis qu'en tant que morceau de matière, Lumpel pourrait très bien exister à l'état informe, pourvu que ses composantes silicates soient conservées. Comme Goliath a une propriété essentielle que Lumpel n'a pas, alors on en conclut qu'ils sont distincts, et comme cette différence est une différence d'essence et non pas une différence accidentelle, on est tenté de surenchérir en disant que cette distinction est en plus essentielle. Alors que penser de cet argument ? Alors, oui, peut-être, sans doute, c'est peut-être un bon argument si on veut montrer la distinction, de facto, entre des objets de catégories différentes, mais l'argument ne vaut pas si on veut montrer que cette distinction est essentielle. En effet, l'argument confond ici deux choses. D'une part, ce que j'ai appelé une différence d'essence. Ce que j'appelle ici une différence d'essence. Donc, c'est ce qui est en jeu ici. Et d'autre part, ce que j'ai appelé tout à l'heure une différence essentielle. Alors, je rappelle qu'il y a une différence essentielle entre deux objets lorsque l'essence de l'un inclut une propriété qui est exclue par l'essence de l'autre. Et dans ce cas de figure, on a vu, il découle de cette différence essentielle que la distinction qui dérive de cette différence est essentielle. Mais ce n'est pas ce qu'on a ici. Ici, on a une simple différence d'essence, au sens où la propriété d'avoir une forme humaine qui est essentielle à Goliath n'est pas essentielle à Lumpel. Autrement dit, elle n'est pas incluse dans l'essence de Lumpel. Mais ça ne signifie pas qu'elle soit exclue par son essence, et pour cause, Lumpel possède lui aussi la même forme humaine que Goliath, mais voilà, pour lui, cette propriété est seulement accidentelle. Autrement dit, Goliath et Lumpel ne vérifient pas le principe des indiscernables essentiels, mais seulement le principe plus faible des indiscernables. En fait, c'est une instance du principe des indiscernables. Il y a une propriété que Goliath a et que Lumpel n'a pas, de fait, à savoir la propriété d'avoir essentiellement une forme humaine. Or, à partir de là, on peut bien conclure que Goliath est distinct de Lumpel, mais ça ne suffit pas pour conclure qu'ils sont essentiellement distincts. Pour ça, il faudrait partir d'une prémisse plus forte où on itère l'opérateur d'essence et qui dit « Il est essentiel que Goliath ait la propriété essentielle d'avoir une forme humaine et il est essentiel que Lumpel n'ait pas la propriété essentielle d'avoir une forme humaine. » Et là, on obtiendrait une différence essentielle, c'est-à-dire une propriété qui serait incluse dans l'essence de Goliath et qui serait exclue par l'essence de Lumpel, et qui pourrait donc fonder la distinction essentielle entre Goliath et Lumpel. Alors, si je parle au conditionnel, c'est parce que pour obtenir cette différence essentielle, il faudrait accepter d'itérer les opérateurs essentialistes et endosser deux principes essentialistes supplémentaires. Premièrement, le principe selon lequel, quand il est essentiel que P, alors il est essentiel qu'il est essentiel que P. Principe qui est l'analogue modal de l'axiome modal appelé S4, qui itère la nécessité en disant « si un fait est nécessaire, alors il est nécessairement nécessaire ». Et deuxièmement, il faudra accepter le principe qui dit que s'il n'est pas essentiel que P, alors il est essentiel qu'il ne soit pas essentiel que P, ce qui est l'analogue de l'axiome modal appelé S5, qui qui dit que si un état de choses est possible, alors il est nécessairement possible. Malheureusement, il n'y a aucune raison de penser que les principes essentialistes analogues de S4 et de S5 soient défendables, ni même qu'ils aient un sens, en fait. Alors, premièrement, un certain nombre de néo-essentialistes, je pense par exemple à Shamik Dasgupta, considèrent que les faits essentiels sont des faits ultimes ou fondamentaux. Dasgupta dit « autonomous facts », des faits autonomes, au sens où ils constituent le point d'arrêt de l'explication métaphysique. Donc, pour eux, dans la mesure, par exemple, où il est essentiel à Goliath d'être une statue, ça n'a aucun sens de se demander « oui, mais alors pourquoi il est essentiel à Goliath d'être une statue ?» Pourquoi ? Parce que Goliath, par définition, c'est son essence, elle est une statue. Donc on ne fait que répéter, réaffirmer le fait essentiel, et on arrête là la demande d'explication métaphysique. Donc la question est déplacée, elle n'a pas de sens. Mais alors, si tel est le cas, on ne peut pas affirmer qu'il est essentiel que Goliath soit essentiellement une statue, comme si son essence de statue devait être fondée ou expliquée par une autre essence plus fondamentale. Et donc on ne peut pas itérer l'essence en ce sens. Deuxièmement, même si on concède que cela pourrait avoir un sens d'itérer l'essence, il est douteux qu'on puisse obtenir la forme d'itération dont on a besoin pour établir que toute distinction est essentielle. Alors, pour ma part, dans d'autres papiers, j'ai tenté de montrer comment on pouvait malgré tout fournir une interprétation valide de l'analogue essentialiste de l'axiome S4, donc le principe essentialiste qui dit que s'il est essentiel que P, alors il est essentiel qu'il est essentiel que P. En revanche, je ne vois pas d'interprétation plausible du principe essentialiste analogue de S5, celui qui dit que s'il n'est pas essentiel que P, alors il est essentiel qu'il ne soit pas essentiel que P. Ou du moins, ce principe me paraît aussi douteux que la thèse de l'essentialité de la distinction qu'il est censé justifier. Donc, faute de temps, je laisse ce point peut-être pour la discussion et je me contente de constater que, là encore, se ferme une voie possible pour établir la thèse de l'essentialité de la distinction. Alors, est-ce qu'il y a d'autres options sur la table pour fonder la nécessité de la distinction sur l'essence ? Oui, donc il en reste deux, au moins, mais je vais être bref, car peut-être qu'il ne me reste que quelques minutes.
Encore 5 minutes.
Oui, d'accord, merci. Alors, il y a premièrement une option qui ne semble pas avoir été envisagée dans la littérature, c'est la stratégie qui consiste à dériver dans la logique de l'essence l'essentialité de la distinction à partir de l'essentialité de l'identité, donc la thèse qu'on a vue tout à l'heure, en suivant un chemin de preuve qui serait l'analogue de la démonstration qui permet en logique modale d'obtenir la nécessité de la distinction une fois que vous avez obtenu la nécessité de l'identité. Donc j'ai retracé cette déduction analogue, mimétique, qui permet d'obtenir l'essentialité de la distinction à partir de l'essentialité de l'identité, en bas de la page 6 du handout, et ça court en haut de la page 7 du handout. Alors, si on accepte cette déduction comme étant une preuve, eh bien, on obtient une réponse à notre problème initial, une réponse non cosmique. Donc, la nécessité de toute distinction est fondée, en fait, sur l'essence de la relation d'identité en général. Il n'y a aucun mystère, exactement comme l'est la nécessité de l'identité. Malheureusement, cette déduction ne peut pas jouer comme une preuve, car pour déduire l'essentialité de la distinction ici, il faut accepter en prémisse un postulat qui est aussi, à mon avis, aussi douteux que la thèse qu'il est censé établir, postulat que j'ai surligné en gris dans la déduction, en haut de la page 7 du handout, c'est à l'étape 5. Et ce postulat, c'est de nouveau notre fameux principe essentialiste analogue de S5, qui dit que s'il n'est pas essentiel que P, alors il est essentiel qu'il ne soit pas essentiel que P. Bref, on retombe dans le cul-de-sac de tout à l'heure. Alors, reste enfin une dernière option pour fonder la nécessité de la distinction sur l'essence. C'est une solution qui a été proposée par Fabrice Correa et Nathan Willman. Elle consiste à fonder la nécessité de la distinction entre des objets A et B, en s'appuyant non pas sur l'essence de chacun, mais en s'appuyant sur l'essence de la pluralité que A et B forment. Donc une pluralité, je prends comme si c'était un terme singulier, mais je ne désigne pas quelque chose. Une pluralité, c'est plusieurs objets pris conjointement, qui ne se réduisent ni à un ensemble, c'est pas un ensemble, et ni à un agrégat. Donc c'est A et B comme plusieurs, c'est l'essence de A et B pris conjointement qui ferait que A, c'était leur essence plurielle, ferait que A est distinct de B. Alors malheureusement, comme je l'ai montré ailleurs et comme je le résume, j'ai un peu résumé un peu rapidement la section 7 du handout, page 7, cette voie ne nous permet pas d'obtenir la nécessité de la distinction, mais une thèse plus faible et sans doute même triviale, à savoir, nécessairement, si des objets A et B comptent pour plusieurs dans un monde possible, alors forcément ils sont distincts entre eux dans ce monde. Mais ce n'est pas la thèse bien plus substantielle de la nécessité de la distinction qui dit que si A existe et si B existe dans un monde, alors ils comptent pour plusieurs et donc ils sont distincts dans ce monde. Bref, ne voyant pas de candidat plausible dont l'essence pourrait fonder la nécessité de la distinction, j'en conclus provisoirement qu'il y a des raisons de croire que certaines distinctions sont nécessaires et pourtant non essentielles. Et si c'est le cas, eh bien, il faut rejeter le principe de fondation essentielle et avec lui abandonner le programme ambitieux qui entendait fonder toute nécessité sur une essence. Il faut donc, en un certain sens, admettre des nécessités brutes, au sens du moins de nécessités qui ne sont pas fondées ou expliquées par l'essence. Mais ce résultat négatif ne signifie pas que le concept d'essence n'aurait plus aucun rôle à jouer en métaphysique modale, car, premièrement, il reste vrai que toutes les nécessités logiques, une grande partie des nécessités conceptuelles et une grande partie des nécessités métaphysiques sont fondées et expliquées par des essences. Et deuxièmement, nous avons besoin d'un concept non modal d'essence pour clarifier les notions de nécessité et de possibilité métaphysique. Quand nous disons, depuis Kripke et d'autres, qu'un énoncé, qu'il est métaphysiquement nécessaire et qu'il est vrai dans tous les mondes métaphysiquement possibles, et pas seulement dans les mondes logiquement possibles, comme on disait avant Kripke, qu'est-ce que nous voulons désigner au juste par un monde qui est métaphysiquement possible et pas seulement logiquement possible, sinon un monde qui est compatible non seulement avec les vérités logiques, mais comme nous disait Sonia Royas tout à l'heure, un monde qui est compatible avec la nature de toutes les choses. Et on voit réapparaître ici le concept non-modal d'essence. Et donc, malgré tout ce que j'ai pu dire aujourd'hui, le concept pré-modal d'essence a encore de beaux jours devant lui. Merci pour votre attention.